Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 8 de la Sainte Sourate Tin. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين
par la figue et par l'olive, et par le mont Sinin, et par cette cité sûre. Très certainement, nous avons créé l'homme en la plus belle stature. Ensuite, nous l'avons renvoyé au plus bas des bas, sauf ceux qui croient et font œuvre bonne, car à eux, un salaire jamais interrompu. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter de mensonge la rétribution? Dieu n'est-il pas le plus grand juge des juges?
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce mercredi 26 avril 2023. Nous allons vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique, une analyse sur l'hégémonie américaine dans les domaines économiques, médiatiques et militaires. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, le ministre iranien des Affaires étrangères a qualifié la présence de forces étrangères dans la région de l'Asie occidentale de coûteuse et perturbatrice. Un éminent religieux iranien a été assassiné dans le nord de l'Iran. Et puis un tribunal iranien a ordonné à un certain nombre de personnes d'identité américaine de verser une indemnisation aux victimes des attentats terroristes de 2017 en Iran. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le ministre iranien des Affaires étrangères a qualifié la présence des forces étrangères dans la région de coûteuse et de perturbatrice. Hossein Amir Abdollahian a fait ses remarques lors d'une rencontre avec son homologue omanais, Saïd Badr al-Boussaïdi à Mascate. Le chef de la diplomatie iranienne a déclaré que la sécurité inclusive est une nécessité indispensable pour la région. Il a également souligné la nécessité de renforcer davantage la coopération entre les États de la région. Le ministre iranien des Affaires étrangères est arrivé mardi dans la capitale omanaise à l'invitation de son homologue pour des entretiens de haut niveau. Amir Abdollahian est accompagné d'une délégation politique de haut rang. Il doit se rendre au Liban mercredi. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré qu'il revenait aux États-Unis et à leurs alliés européens de relancer l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, connu sous le nom du Plan global d'action conjoint, ou PGAC. Lavrov a déclaré que l'accord pour relancer le pacte multilatéral en difficulté avait été conclu il y a quelque temps, mais maintenant les Américains optent pour autre chose. Il a qualifié d'énorme erreur de la part de Washington de laisser passer l'occasion de relancer l'accord. Le PGAC a rencontré des difficultés en 2018 lorsque les États-Unis de Trump s'en sont retirés unilatéralement. L'Iran et les autres signataires ont entamé des pourparlers en avril 2021 pour relancer l'accord. Les pourparlers ont cependant été bloqués en raison du refus de Washington de fournir des garanties. L'Iran affirme que la relance de l'accord dépend de la levée complète des sanctions américaines contre Téhéran. Sachez également que l'Iran et la Russie franchissent les dernières étapes vers l'intégration de leur système bancaire électronique. L'ambassadeur d'Iran à Moscou a déclaré aux médias que les réseaux iraniens Chetab et russe Mir avaient commencé leurs activités financières conjointes à titre d'essai. Kazem Jalali a déclaré que cette décision faciliterait considérablement les transactions entre les deux pays. Téhéran et Moscou ont signé l'année dernière des accords pour renforcer leur coopération commerciale et économique bilatérale. Cela comprenait également l'intégration des systèmes de transfert interbancaire iranien et russe. Les deux pays sont soumis à des sanctions économiques occidentales paralysantes et cherchent des moyens d'abandonner le dollar américain dans leurs transactions commerciales bilatérales. Un éminent religieux iranien a été assassiné dans le nord de l'Iran. L'ayatollah Abbasali Soleimani a été abattu mercredi lors d'une attaque armée dans la ville septentrionale de Babolsar. L'agresseur a été arrêté à la suite de l'incident, mais le motif de l'attaque n'est pas clair. Selon un témoin oculaire, l'ayatollah Soleimani se trouvait dans une banque lorsque l'agresseur a désarmé la garde de la banque et a ouvert le feu sur le religieux. Trois autres ont également été blessés. Le défunt religieux était membre de l'Assemblée des experts et ancien chef de la prière collective du vendredi de la ville de Khorasan. Un tribunal iranien a ordonné à un certain nombre de personnes et d'entités américaines de verser une indemnisation aux victimes des attentats terroristes 2017 en Iran. Le tribunal judiciaire de Téhéran a rendu le verdict après qu'une action en justice a été déposée par certaines des familles des victimes des attaques jumelles à Téhéran contre le Parlement iranien et le sanctuaire de l'imam Khomeini. Le gouvernement américain et l'ancien président Barack Obama font partie des 9 personnes et entités qui ont été condamnées selon la décision du tribunal. Ils ont été reconnus coupables d'implication dans les incidents terroristes. Il a cité plusieurs raisons telles que le rôle de Washington dans l'organisation de groupes terroristes comme Daesh, les nouvelles publiées dans les médias américains, ainsi que l'aveu même des responsables américains que la CIA a joué un rôle dans la création de groupes terroristes. Enfin, le président turc a exprimé sa gratitude à l'Iran pour ses efforts de secours après un tremblement de terre massif qui a dévasté de grandes parties de la Turquie au début de cette année. Lors d'une cérémonie, Recep Tayyip Erdogan a remis un insigne de sacrifice à Pir Hossein Kolivand, chef de la société iranienne du Croissant Rouge. C'est en reconnaissance des services rendus par l'organisation d'aide et de secours au lendemain du tremblement de terre. Dans une interview, Kolivand a déclaré que l'Iran avait pris sur lui de venir en aide aux victimes du séisme en tant que responsabilité morale et humanitaire. Kolivand a déclaré que de très bonnes équipes de secours iraniennes étaient sur le terrain dans les zones sinistrées. De violents tremblements de terre ont fait des ravages dans plusieurs provinces du sud de la Turquie en février, faisant presque 50 000 morts. Fin de ce journal, merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. Une analyse sur l'hégémonie américaine dans les domaines économiques, médiatiques et militaires. Les États-Unis bénéficient d'une hégémonie depuis la Deuxième Guerre mondiale et surtout après l'effondrement de l'URSS. Mais cette image s'estompe de plus en plus. L'empire américain dans les domaines économiques, médiatiques, culturels, militaires et technologiques. Dans un article de décryptage, l'agence de presse chinoise a publié un rapport sur l'hégémonie américaine dans les domaines militaires, économiques, culturels et politiques. Ce texte peut également refléter de la vision chinoise sur cette question. Depuis qu'ils sont devenus le pays le plus puissant du monde, après les deux guerres mondiales et la guerre froide, les États-Unis abusent de leur hégémonie, favorisent la subvention et l'infiltration et mènent délibérément des guerres, portant ainsi préjudice à la communauté internationale. Les États-Unis ont élaboré un manuel de stratégie hégémonique pour mettre en scène des révolutions de couleur, provoquer des conflits régionaux et même lancer directement des guerres sous couvert de promouvoir la démocratie, la liberté et les droits de l'homme. S'accrochant à la mentalité de la guerre froide, les États-Unis ont intensifié la politique des blocs et alimenté les conflits et les confrontations. Ils ont poussé à l'extrême le concept de sécurité nationale, abusé des contrôles à l'exportation et imposé des sanctions unilatérales aux autres. Ils ont adopté une approche sélective du droit et des règles internationales, les utilisant ou les rejetant comme bon leur semble. Et ont cherché à imposer des règles qui servent leurs propres intérêts au nom du maintien d'un ordre international fondé sur des règles. Les États-Unis tentent depuis longtemps de modeler les autres pays et l'ordre mondial avec leurs propres valeurs et leurs propres systèmes politiques au nom de la promotion de la démocratie et des droits de l'homme. L'histoire des États-Unis est caractérisée par la violence et l'expansion. Depuis leur indépendance en 1776, les États-Unis ont constamment cherché à s'étendre par la force. Ils ont massacré les Indiens, envahi le Canada, mené une guerre contre le Mexique, déclenché la guerre américano-espagnole et annexé Hawaï. Après la Seconde Guerre mondiale, les guerres provoquées ou lancées par les États-Unis ont inclus la guerre de Corée, la guerre du Vietnam, la guerre du Golfe Persique, la guerre des Balkans, la guerre d'Afghanistan, la guerre d'Irak et la guerre de la Libye et encore la guerre de Syrie, usant et abusant de leur hégémonie militaire pour ouvrir la voie à des objectifs expansionnistes. Ces dernières années, le budget militaire annuel moyen des États-Unis a dépassé 700 milliards de dollars, représentant 40% du total mondial, soit plus que les 15 pays derrière eux réunis. Les États-Unis disposent d'environ 800 bases militaires à l'étranger, avec 173 000 soldats déployés dans 159 pays. L'hégémonie militaire américaine a provoqué des tragédies humanitaires. Les États-Unis ont également adopté des méthodes effroyables en matière de guerre. Au cours de la guerre de Corée, de la guerre du Vietnam, de la guerre du Golfe Persique, de la guerre du Kosovo, de la guerre d'Afghanistan et de la guerre d'Irak, les États-Unis ont utilisé des quantités massives d'armes chimiques et biologiques, ainsi que des bombes à fragmentation, des bombes à air comprimé, des bombes au graphite et des bombes à uranium appauvri, causant d'énormes dommages aux installations civiles, d'innombrables victimes civiles et une pollution durable de l'environnement. Et il ne faut jamais oublier les bombes nucléaires utilisées contre le Japon par les Américains au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont formé le système monétaire international centré sur le dollar américain. En outre, les États-Unis ont établi une hégémonie institutionnelle dans le secteur économique et financier international. Les États-Unis exploitent les richesses du monde à l'aide du seigneuriage. La production d'un billet de 100 dollars ne coûte qu'environ 17 cents, mais les autres pays doivent débourser 100 dollars de biens réels pour en obtenir un. Grâce à leur contrôle sur les organisations économiques et financières internationales, les États-Unis imposent des conditions supplémentaires pour aider les autres pays. L'hégémonie économique et financière de l'Amérique est devenue une arme géopolitique. À elle seule, l'administration Trump a imposé plus de 3900 sanctions, soit 3 sanctions par jour. Jusqu'à présent, les États-Unis avaient ou ont imposé des sanctions économiques à près de 40 pays à travers le monde, dont Cuba, la Chine, la Russie, la RPDC, l'Iran et le Venezuela. affectant près de la moitié de la population mondiale. Les États-Unis cherchent à décourager le développement scientifique, technologique et économique des autres pays en exerçant un pouvoir de monopole. Des mesures de suppression et des restrictions technologiques dans les domaines de haute technologie. Les États-Unis monopolisent la propriété intellectuelle au nom de la protection, profitant de la position de faiblesse des autres pays, notamment des pays en développement, en matière de droits de propriété intellectuelle et de la vacuité institutionnelle. Dans les domaines concernés, les États-Unis engrangent des bénéfices excessifs grâce au monopole. Les États-Unis ont écrasé la vérité par leur puissance et piétiné la justice pour servir leurs intérêts personnels. Ces pratiques hégémoniques, unilatérales, égoïstes et régressives ont suscité des critiques et une opposition croissante et intense de la part de la communauté internationale.
Bonjour à tous, bienvenue ici dans la capitale iranienne, Téhéran. Le sujet du jour étant les sanctions de la CGRI, donc le système armé de la République islamique d'Iran, par les Américains. Comme d'habitude, les Américains répondent toujours par la même chose, comme ils se sentent en danger, les sanctions et encore des sanctions. C'est le sujet du jour. Cette fois, les sanctions sont encore dirigées sur l'armée donc, de l'état, d'un État souverain qui est l'Iran. C'est notre sujet. Pour ce faire, nous avons préparé donc un reportage, comme le veut notre débat, notre programme débat. Et par la suite, nous ferons venir donc nos invités. Je vous propose donc d'abord notre reportage. À tout de suite.
Le ministère iranien des Affaires étrangères a salué le CGRI en tant que bras puissant qui protège la République islamique d'Iran et ses intérêts nationaux, affirmant que la puissance de la force militaire d'élite met en colère les ennemis. Le corps des gardiens de la révolution islamique CGRI est un bras puissant qui protège la République islamique et ses intérêts nationaux tout en exaspérant les ennemis, c'est ce qu'a réaffirmé le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. En allusion à l'anniversaire de la création du CGRI, Nasser Kanani a déclaré samedi dans un tweet que la force d'élite était une source d'honneur et de pouvoir pour le pays. Au cours des dernières années, le CGRI a été une barrière solide contre les ennemis de la révolution et de la nation iranienne, ainsi qu'un point d'appui fiable dans les crises, les catastrophes naturelles et les incidents. L'organisation révolutionnaire n'est pas limitée aux frontières de l'Iran islamique, car elle s'est précipitée au secours des opprimés à travers le monde. Aujourd'hui, c'est un véritable modèle pour les jeunes et les combattants du monde islamique, a déclaré le ministère de la Défense. Cette institution révolutionnaire a joué un rôle efficace et décisif dans les équations régionales et mondiales, perturbant les complots et les plans néfastes transrégionaux des ennemis. Le ministère de la Défense a également indiqué que l'assassinat de commandants du CGRI, les sanctions et le battage médiatique contre la force militaire démontre la haine et la rage contre ses capacités, ses progrès et ses succès. Aujourd'hui, le CGRI est au sommet de sa croissance. Il fait non seulement avancer ses missions et ses tâches, mais aussi une force motrice dans le pays, a ajouté le ministère. Il s'est en outre engagé à soutenir l'institution stratégique en tant que manifestation de l'autorité de la révolution islamique, à lui fournir des équipements des technologies de pointe et à ne ménager aucun effort pour répondre à ses besoins. Le CGRI a été créé le 22 avril 1979 par le feu fondateur de la révolution islamique, l'imam Khomeini, que son âme repose au paradis, en tant qu'organisation paramilitaire chargée de protéger la République islamique naissante. La force coopère étroitement avec l'armée iranienne face aux menaces étrangères telles qu'elles se sont manifestées lors de la guerre de 8 ans imposée par l'ancien dictateur irakien Saddam Hussein à l'Iran dans les années 1980.
Nous revoilà donc sur les plateaux. Tout d'abord, nous ferons venir donc notre invité maître André Chami. Bonjour maître André Chami, ravi de vous avoir avec nous.
Bonjour.
Alors, vous avez entendu peut-être le reportage, sinon je vous fais un bref résumé. Ça reparle donc des sanctions contre l'armée, donc contre la CGRI. CGRI qui a pu permettre de protéger les frontières iraniennes et pas seulement, les technologies comme la technologie satellitaire ou même l'armée navale se s'est beaucoup améliorée suite à son entrée en fonction après avec la guerre en Irak. Alors, les Américains ont décidé encore une fois de les sanctionner. Encore une fois, je rappelle, c'est une armée d'un État souverain reconnu par tous les organismes et tous les États du monde. Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à ces nouvelles sanctions et surtout, quelle va en être l'utilité pour les Américains?
Moi, je considère que la CGRI a bénéficié d'une nouvelle médaille provenant des États-Unis parce qu'à chaque fois que vous êtes sanctionné des États-Unis, ça veut dire que vous êtes en train de lutter contre les projets impérialistes. Je considère donc que la CGRI bénéficie, je dirais, de grades supplémentaires, d'aura supplémentaires qui lui permettent de bénéficier même d'une renommée mondiale comme étant l'une des armées, ou parmi les premières armées du monde, à faire face à l'impérialisme américain. Et ça, c'est déjà, je dirais, un exploit. Mais en plus, à partir du moment où vous commencez même sur le plan militaire à rivaliser par rapport aux Américains, et on constate ce qui se passe actuellement dans le Golfe Persique et le fait de scruter le moindre fait et geste des Américains dans la région afin de les empêcher de commettre leurs exactions ou même leurs manœuvres de basse besogne. Évidemment, c'est également un point supplémentaire qui viendrait au crédit des gardiens de la Révolution. Merci. Aujourd'hui, à mon sens, les gardiens de la Révolution ne sont pas uniquement les protecteurs, si je dis, de la République islamique d'Iran, mais les protecteurs d'un projet important qui vise à éviter tout risque qui viendrait des actes illicites et des actes de malfaisance qui proviendrait des États-Unis. Et nous sommes actuellement en pleine, en pleine gestation de ce type d'agissement, parce que les Américains sont mécontents du fait que leurs projets dans la région échouent les uns après les autres. Et évidemment, qui a été le premier à le faire? Ce sont les gardiens de la Révolution et plus particulièrement la République islamique d'Iran. Et bien évidemment, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a sanctionné, ce sont les gardiens de la Révolution, mais pas que, parce que nous avons constaté des sanctions contre des personnalités, nous avons constaté des sanctions contre même l'outil. Quoi, à un moment donné, la compagnie aérienne a été sanctionnée, et tout cela parce que ça contribuait à aider la République islamique d'Iran dans sa lutte contre les projets américains dans la région, et surtout, encore une fois, les méfaits de cette politique américaine dans la région.
Merci, maître André Chami. Alors, notre deuxième invité, vous l'avez compris, c'est maître Elie Atem, juriste également international. Bonjour, maître Elie Atem. Alors, est-ce que vous avez entendu donc, les propos tenus par maître André Chami sur les dernières sanctions américaines et l'utilité, ainsi que l'outil extrêmement important qui est la CGRI pour la protection de l'Iran?
Oui, tout à fait.
Alors, est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose par rapport donc à cette sauvegarde qu'est la CGRI pour l'Iran? Encore une fois, une armée régulière, une armée d'un État souverain.
voilà, tout à fait. Ben, ce qu'il faut peut-être rappeler pour les téléspectateurs, c'est que en fait, l'armée ou les forces ou l'institution militaire en Iran, elle est divisée en deux parties. Il y a ce qu'on appelle donc l'armée qui est censée protéger, c'est l'armée classique en fait, et parallèlement, il y a également les forces spéciales des gardiens donc de la révolution, qui tous les deux font partie donc de la ce qu'on appelle des forces armées de l'Iran. Alors, il faut aussi peut-être souligner qu'il y a une décision qui se prend au niveau national, c'est par le Conseil de sécurité nationale iranien, dans lequel participent en fait les chefs d'état-major des deux, si vous voulez, pôles de l'armée iranienne, donc l'armée classique, plus les gardiens donc de la révolution. Donc, par conséquent, il s'agit d'un groupement militaire, d'un groupe militaire qui fait partie de l'institution militaire iranienne, puisqu'elle est institutionnalisée donc, de cette façon. Les sanctions prises, les sanctions américaines, on sait très bien qu'elles n'ont plus aucune valeur, je dirais, juridique au niveau international, parce que les États-Unis distribuent des sanctions à tous ceux qui les dérangent ou qu'ils considèrent comme leurs ennemis, d'une part.
Ce que vous voulez dire, excusez-moi, Maître Athènes, ce que vous voulez dire, c'est que ces sanctions sont illégales d'un point de vue du droit international. C'est dans ce sens-là que vous avez indiqué ça.
Tout à fait illégales. Et puis, parce que je vais vous dire, bon, il y a deux types de sanctions. Donc, il y a les sanctions donc, qui sont contre l'État directement, qui est l'adversaire politique en fait, des États-Unis. Mais vous avez encore pire, ce qu'on appelle les sanctions extraterritoriales. Autrement dit, ce sont des sanctions d'État. Ils sont considérés souverains, la France, l'Angleterre, etc. Je prends l'exemple de la France. Du moment où un Français ou une institution ou un établissement, une société française traite avec une société iranienne ou avec l'Iran, et elle est sanctionnée. Et nous avons vu quand même des banques sanctionnées à des milliards de dollars à verser au trésor américain du fait qu'ils ont traité avec des sociétés iraniennes. Et cela, pourquoi ? Parce que ces sociétés en fait, françaises ont des comptes en fait, à la Chase Manhattan Bank, c'est-à-dire aux États-Unis, et de ce fait, donc, ils sont obligés donc, de payer les amendes auxquelles elles ont été condamnées. Donc, c'est tout à fait dans cette pure illégalité. Alors, et puis, il faut peut-être rappeler quelque chose de très important. Vous savez, il y a un marché qui se fait aux États-Unis, c'est le marché des sanctions. Autrement dit, vous avez l'appareil d'État qui édicte des sanctions internationales. Vous avez le procureur, les procureurs aux États-Unis sont élus et qui sont là, en fait, pour appliquer ces sanctions internationales. Il y a des personnalités étrangères qui sont sanctionnées. Il y a des institutions dans ce domaine donc de sanctions extraterritoriales qui sont également sanctionnées du moment où ils traitent avec un État ou une entité sanctionnée, par exemple en Iran. Mais vous avez parallèlement des cabinets qui travaillent avec ces procureurs, parce que c'est, si vous voulez, c'est à la limite du public et du privé. Donc l'objectif est de lever la sanction ou débloquer l'argent en contrepartie d'un pourcentage d'honoraires sur le résultat. Donc, vous savez comment qualifier, c'est à vous ou aux téléspectateurs de qualifier cette astuce ou ce travail, ou ce recours à des sanctions, donc d'une part, à des levées des sanctions en contrepartie d'honoraires de la part d'un État qui se respecte et qui s'appelle donc les États-Unis d'Amérique. Donc, c'est tout un processus tout à fait illégal. Et je termine simplement à ce sujet en disant que ce qui m'étonne, c'est que quand même que les États-Unis qui sont en train, soi-disant, d'édicter ces sanctions d'une manière que eux, ils interprètent d'une manière légale parce qu'il y aurait un trouble à l'ordre public ou international, mais il faut savoir qu'au droit international public, pour édicter une sanction, il faut qu'un État ou une entité ait commis un acte internationalement illicite. Quel est l'acte internationalement illicite qui a été commis par les forces des gardiens de la Révolution ?
On n'oublie pas que les mêmes forces... On n'oublie pas que les mêmes forces, donc la CGRI, comme on dit, sont intervenues auprès contre les terroristes. C'est un peu grâce à la CGRI que l'expansionnisme terroriste s'est arrêté en Irak et en Syrie. On n'oublie pas également l'intervention russe, mais la CGRI, les milices, puisqu'ils n'étaient pas officiellement là-bas, c'était juste des conseillers militaires, bon, ont permis, grâce aux conseillers, grâce à leur expérience sur le terrain, d'empêcher d'une certaine manière, avec ceux également présents, la résistance également présent, d'aboutir à ce que les touristes n'aillent pas au-delà de l'Irak ou même de la Syrie. C'est un peu, c'est s'en prendre à une entité qui a finalement aidé les pays internationaux. Maître André Chamy, alors il y a des experts qui ont dit, donc il y a deux points que j'aimerais voir avec vous dans les débats d'aujourd'hui. C'est le premier point serait le fait que certains disent que même le Trésor américain ne sont pas d'accord avec la pile et la liste de sanctions indiquant que plus on utilise les sanctions, moins ils ont d'effet, et plus on utilise les sanctions sur plusieurs pays, et plus les pays seront à même de pouvoir y répondre et de pouvoir en faire fi, et de rendre par cela même les États-Unis plus faibles. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette perception de l'utilisation des sanctions ?
C'est le constat est fait maintenant depuis des années. Les Américains l'ont compris, mais en réalité, ils sont dans une espèce de marche forcée, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas montrer une faiblesse, ne serait-ce que dans leur position, parce que, au fil des 40 dernières années, si je veux dire, les sanctions contre l'Iran, c'est vrai que ça a créé des situations économiques difficiles parfois pour la population iranienne, mais cela n'a pas empêché l'armée islamique d'Iran de se développer, de développer ses capacités de défense, de développer sa projection stratégique à travers le monde et surtout d'augmenter le nombre d'amis à travers le monde. Et nous constatons au contraire qu'aujourd'hui, l'armée islamique d'Iran a une projection en Afrique, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Asie, qui lui permet, bien entendu, de faire face de mieux en mieux à toutes les difficultés créées par les Américains. Et ça, les Américains n'arrivent pas à le supporter, mais ils ont compris en réalité que les pays contre lesquels ils ont pris des sanctions ont compris aussi comment les contourner. Et j'ai envie de dire que la République islamique d'Iran est devenue maître en la matière, puisqu'elle a su développer un réseau d'amis, un réseau de moyens de connexion qui lui permettent de contourner l'essentiel des sanctions. Et c'est ça qui lui a permis en réalité de les développer, son outil militaire, mais aussi sa capacité, encore une fois, de projection. Les Américains rencontrent le même problème avec la Russie, puisque avec les sanctions contre la Russie a démontré qu'elle a pu contourner l'essentiel des sanctions, et les Chinois, je dirais, suivent le même chemin, et ça va créer encore autre chose, c'est-à-dire ça va être des alliances qui, entre elles, vont permettre de contourner toutes ces sanctions, parce que ce que je n'arrive pas à voir, je vais aller chercher chez mon voisin, en tout cas, c'est lui qui va devenir mon nouvel allié par rapport aux sanctions américaines. Et aujourd'hui, vous constatez comme moi, cette alliance stratégique qui est née entre l'Iran, la Chine, la Russie, mais également avec l'Amérique latine, avec certains pays arabes, où on voit qu'on donne un coup de main à la République islamique d'Iran, on donne un coup de main à la Russie, etc., pour leur permettre de passer à autre chose, c'est-à-dire de ne pas se préoccuper des Américains et de leurs sanctions, lesquelles aujourd'hui, au contraire, vont aboutir à une dédollarisation du système économique, alors que cette dédollarisation leur permettait d'avoir la maîtrise sur les circuits financiers. Aujourd'hui, ce circuit financier est totalement contourné, c'est-à-dire qu'il a perdu toute son utilité initiale qui était celle de donner la maîtrise de toutes ces relations aux États-Unis afin de pouvoir les bloquer, les empêcher de fonctionner, etc. Et là, les Américains sont totalement embêtés, pour ne pas dire d'autres termes moins flatteurs, et c'est ce qui permet également, encore une fois, aux ennemis entre guillemets des États-Unis de se rallier entre eux et de créer de véritables remparts à toutes les sanctions américaines. Et ces sanctions américaines, aujourd'hui, à mon sens, devraient voir un autre, je dirais, une autre forme, parce que sinon, les Américains vont perdre, au-delà de la capacité de projection, même la capacité de maîtriser leur propre économie.
Merci, Maître André Chalier. Monsieur Eliatem, Maître Eliatem, pour rebondir sur les propos de André Chami concernant donc l'efficacité de ces sanctions, même si on sait que sur du long terme, l'efficacité est moindre, il ralentit malgré tout les relations, les dossiers et les projets que peuvent avoir la CGRI avec les autres États. On se rappelle qu'il y a eu pas si longtemps que ça un exercice naval entre la Chine, la Russie et l'Iran. Ce sont quand même des choses qui freinent un petit peu l'avancée de l'État iranien et surtout sa sauvegarde et sa sécurité.
Bah écoutez, il faut voir donc deux choses dans ces sanctions. Il faut voir le côté économique et il faut voir ce que vous avez dit donc au sujet de ce qui est militaire. Au niveau économique, sur les sanctions en général, ces sanctions, comme vous avez dit, et c'était l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Boutros-Ghali, qui avait dit la même chose, que à long terme, les sanctions peuvent être plutôt bénéfiques pour les États et pour les États, les entités sanctionnées, ça donne une popularité, etc. Mais il faut dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a un autre facteur qui vient démontrer l'inefficacité totale de ces sanctions d'un point de vue économique. Pourquoi ? Et commercial. Parce que, si vous voulez, l'objectif de ces sanctions, c'est empêcher ces États ou ces entités qui sont sanctionnées de pouvoir travailler normalement avec, entre guillemets, la société internationale. Or, aujourd'hui, cela est en train de changer, surtout depuis la guerre en Ukraine et cette volonté de recréer une nouvelle société internationale, un nouveau monde libre, et qu'on voit avec la mise en place donc de systèmes économiques parallèles. Ce que le président Macron a dit, que quand même, nous allons vers un monde multipolaire. Autrement dit, vous avez un système qui est en train de naître, mais ça a pris du temps. Ça prendra encore un peu de temps, mais avec les BRICS, avec un système de transactions donc commerciales et économiques qui sera facilité par ce biais-là. Donc ces sanctions n'auront plus, si vous voulez, cet effet là-dessus. Maintenant, d'un point de vue militaire, ce qui dérange surtout, en fait, les Américains, c'est la découverte que la CGRI donc, a des moyens également, non seulement militaires, mais également de fabrication d'armes assez sophistiquées. Et puis, il faut savoir, c'est qu'il y a des vedettes qui sont, dont l'objectif est a fait reculer quand même le porte-avions américains, donc des zones maritimes. Pourquoi ? Parce que ça crée une certaine dissuasion et ça fait une certaine crainte pour les Américains quand on voit pas une ou deux ou dix ou vingt, mais une centaine de vedettes militaires construites donc par les gardiens de la Révolution et puis qui interviennent donc en mer. Deuxièmement, ce sont les informations que les Américains ont eues également relativement à la construction de comment on appelle donc vous savez là ceux qui descendent sous la mer,
les sous-marins,
les frégates, pardon, ouais. Les sous-marins, pardon, ce sont des sous-marins également qui sont construits par les gardiens donc de la Révolution, qui effraient également, qui freinent beaucoup plus donc les Américains. En revanche, ce que vous dites, c'est que cette collaboration entre la Chine et l'Iran et puis d'autres pays pour des exercices navals, donc je ne pense pas que cela va pouvoir les affecter parce que l'ensemble donc, de ces pays-là n'ont pas peur, si vous voulez, en quelque sorte, de se trouver eux-mêmes sanctionnés parce qu'ils ont une collaboration militaire sur place. Ce qui est vrai, ce qui freine en fait des États tiers de pouvoir traiter avec un État sous sanction, ce sont simplement les mesures économiques et financières.
Alors, vous avez parlé au tout début donc, du fait que les relations économiques entre les États et le pays sanctionné comme l'Iran, c'est un outil qui va bientôt disparaître. Vous parlez notamment des relations avec la Russie au niveau bancaire, entre la Russie et l'Iran, et également les BRICS, qui souhaitent également, éventuellement, sur du long terme, créer leur propre SWIFT. C'est sur ce domaine-là que vous aviez indiqué que bientôt, ce genre de sanctions, même économiques, n'auraient pas d'effet, Monsieur Eliatem?
Ah ben bien sûr, parce que si vous voulez, l'objectif de ces sanctions, ce sont des sanctions qui sont plutôt économiques et commerciales. C'est pour faire et pour éviter que ces personnes puissent effectuer donc des actes et puis que d'autres personnes qui ne sont pas donc sanctionnées puissent travailler avec vous du fait d'utiliser par exemple le dollar, simplement une utilisation du dollar vous conduit à être sous sanction américaine, parce qu'ils considèrent que c'est une expansion de la notion de la souveraineté nationale, et ça a permis aux personnes donc, qui sont en relation commerciale ou économique avec un État, une entité ou une entreprise sous sanction, d'être vous-même aussi sanctionné. Donc aujourd'hui, s'il y a un système qui est parallèle, qui a un SWIFT, qui a les BRICS qui sont en train de travailler là-dessus, et d'ailleurs, il y a des transactions qui se font avec dans ces monnaies, c'est-à-dire si on échappe à un travail avec le dollar, et puis c'est les autres pays vont travailler avec ce système qui est parallèle au système américain, donc le SWIFT, et de cette hégémonie, je dirais, économique et financière, on échappe à l'effet escompté de ces sanctions.
Merci. Et ce seront donc les mots de conclusion de notre débat d'aujourd'hui, qui avait donc, je le rappelle, le sujet concernant la CGRI et les sanctions toujours multiples des Américains pour répondre et pour s'en prendre à la souveraineté iranienne et à sa sécurité. Je remercie nos deux invités, Maître André Chami et Maître Elie Atem, pour leurs interventions. Merci Maître, à vous deux. Et moi, ici, je vous dis au revoir pour un autre sujet du débat, ici à Téhéran, la capitale iranienne. Au revoir.
Ici, le Moyen-Orient.
Très chers amis auditeurs, bienvenue au programme portant sur l'actualité de l'Asie de l'Ouest. Restez avec nous jusqu'à la fin de ce programme. Le guide suprême de la révolution islamique, l'ayatollah Ali Khamenei, a gracié ou commué les peines de plus de 1700 prisonniers, alors que les Iraniens ainsi que d'autres musulmans du monde entier se préparent à célébrer l'Aïd al-Fitr, qui marque la fin du mois de Ramadan. L'ayatollah Khamenei a accepté ce jeudi de gracier ou de réduire les peines de 1760 prisonniers, y compris ceux reconnus coupables pour les cours des plaidoyers communs et les tribunaux de la révolution islamique, l'organisation judiciaire des forces armées et l'organisation des sanctions discrétionnaires de l'État. Cette décision fait suite à une lettre du chef du pouvoir judiciaire iranien, Gholam Hossein Mohseni Ejei, concernant les prisonniers jugés éligibles à la grâce par l'autorité judiciaire compétente. L'article 110 de la Constitution iranienne accorde aux leaders le droit de gracier ou de réduire les peines des détenus sur recommandation du chef du pouvoir judiciaire. La clémence, cependant, ne s'applique pas à tous les types de prisonniers, à savoir ceux qui ont été condamnés pour leur rôle dans la lutte armée contre le pays, le trafic de drogue armée ou organisée, le viol, le vol à main armée, la contrebande d'armes, l'enlèvement, la corruption et le détournement de fonds. La marine iranienne a déclaré jeudi 20 avril que son sous-marin Fateh avait émis un avertissement sévère à un sous-marin américain à propulsion nucléaire dans le détroit d'Hormuz, le forçant à faire surface. Le sous-marin nucléaire américain, l'USS Florida, s'approchait du détroit d'Hormuz alors qu'il était submergé, mais le sous-marin iranien Fateh l'a détecté et a effectué des manœuvres pour le forcer à faire surface et traverser le détroit d'Hormuz en surface, a expliqué le commandant de la marine de l'armée iranienne, le contre-amiral Shahram Irani. Le contre-amiral Irani a noté que le sous-marin américain était également entré dans les eaux territoriales de l'Iran, mais il avait corrigé sa trajectoire avec une escorte et continué sa route après avoir reçu des avertissements nécessaires. Ce sous-marin fait de son mieux, utilisant toutes ses capacités pour passer dans un silence total et sans être détecté. Les États-Unis devront expliquer les raisons pour lesquelles ils ont enfreint la réglementation sur une importante voie navigable internationale, a-t-il ajouté. Le ministère iranien des Affaires étrangères a salué le corps des gardiens de la révolution islamique en tant que bras puissant qui protège la République islamique et ses intérêts nationaux, affirmant que la puissance de la force militaire d'élite met en colère les ennemis. En allusion à l'anniversaire de la création du CGRI, le porte-parole de la diplomatie iranienne Nasser Kanani a déclaré samedi, dans un tweet, que la force d'élite était une source d'honneur et de pouvoir pour le pays. Le CGRI est un bras puissant qui protège la révolution islamique et la République islamique d'Iran, soutient la nation et protège la sécurité nationale du pays, a écrit Kanani. Ce sont les raisons de la colère des ennemis déclarés de la révolution envers le CGRI, a-t-il dit. Samedi également, le ministère iranien de la Défense a félicité le peuple et les forces armées iraniennes à l'occasion de l'anniversaire de la formation du CGRI. Il a également rendu hommage aux martyrs du CGRI, en particulier l'ancien commandant en chef de la force ROTS, le général Rassem Soleimani, assassiné par les États-Unis en janvier 2020. L'ambassadeur d'Iran auprès des Nations Unies a déclaré que le retrait unilatéral des États-Unis du plan global d'action conjoint, la réimposition des sanctions illégales contre l'Iran, les tentatives de contraindre d'autres pays à s'engager dans ces actions illégales, ainsi que la remise en cause de l'arbitrage de la Cour internationale de justice, constituaient les exemples flagrants de l'unilatéralisme qui viole la Charte des Nations Unies et sape le système multilatéral. L'ambassadeur et représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies, Amir Saidi Ravani, s'est exprimé lundi 24 avril, heure locale, lors de la réunion du Conseil de sécurité sur le multilatéralisme efficace par la défense des principes de la Charte, présidée par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Le retrait unilatéral des États-Unis du plan global d'action conjoint, la réimposition de sanctions illégales contre l'Iran, les tentatives de contraindre d'autres pays à s'engager dans ces actions illégales et la remise en cause des décisions de la Cour internationale de justice sont des exemples manifestes de l'unilatéralisme qui affaiblissent la Charte des Nations Unies et sapent le système multilatéral, a dit l'ambassadeur iranien. Dans son récent verdict rendu le 30 mars 2023, concernant certains avoirs iraniens, la Cour internationale de justice, CIJ, a réaffirmé que les États-Unis avaient violé leurs obligations internationales envers le peuple iranien en imposant des sanctions unilatérales illégales au regard du droit international. La décision de la Cour internationale de justice est définitive et contraignante, exige des États-Unis son application intégrale. Le représentant a dénoncé l'abus du système de l'ONU, l'application sélective du droit international et le recours aux mesures coercitives unilatérales et à l'unilatéralisme, y voyant des menaces à la paix et une violation de la Charte des Nations Unies. Les forces de sécurité israéliennes restent en état d'alerte en prévision d'une éventuelle confrontation avec la résistance palestinienne à la veille de l'anniversaire de l'occupation de la Palestine. Quelques 30 000 policiers, soldats et volontaires israéliens ont été déployés à travers les territoires occupés pour assurer la sécurité à la veille de la commémoration des soldats israéliens morts et du jour de la Nakba, tragédie de l'occupation de la Palestine, que le régime sioniste appelle la journée de l'indépendance, célébrée par les Israéliens le 14 mai. le 15 mai est l'anniversaire de la tragédie de l'occupation de la Palestine en 1948, connue sous le nom de jour de la Nakba. Il est vrai que selon le calendrier grégorien, l'occupation de la Palestine a eu lieu le 15 mai. Mais les Israéliens organisent des cérémonies apparentées selon le calendrier hébreu, qui est différent du calendrier grégorien. Et en raison de la différence des calendriers, ces deux jours ne coïncident qu'une fois tous les 19 ans. Les autorités du régime sioniste ont annoncé qu'à partir de lundi soir jusqu'à mercredi prochain à minuit, elles fermeront la Cisjordanie et tous les points de passage dans la bande de Gaza, augmenteront le niveau d'alerte et déploieront quelques 30 000 policiers et soldats en Cisjordanie et aux frontières du 4 juin, ainsi que dans les colonies de peuplement sioniste. Voilà, ainsi s'achève ce programme. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine.